Elle a appris dès son plus jeune âge à lire en famille. Sa mère lui a inculqué le goût de la lecture et elle a souhaité très rapidement s'instruire, mais par elle-même.
Bonjour, bienvenue sur Beauty Toaster. Aujourd'hui, je reçois Alexandra et Sonia. Deux créatrices atypiques. La première a travaillé dans la communication et le marketing. La seconde, designer de formation, a fait ses armes dans une entreprise fabriquant des espaces sensoriels. Un jour, elles ont décidé de mettre en commun leur amour de l'art et de la culture pour créer des savons. Oui, des savons. Mais pas de banales savonnettes industrielles, hein. Non, non. Avec Vilaine fille, mauvais garçon, un clin d'œil à la chanson de Serge Gainsbourg, ces deux femmes ont décidé d'aller à contre-courant de tout ce qui se fait aujourd'hui. Et surtout, elles ont choisi de nous faire réfléchir en nous contant la petite histoire. Au cours de notre entretien, on a disserté sur l'expression « prendre son temps » à l'époque du tout de suite. On a aussi parlé du revival féministe, de femmes à la destinée incroyable comme Harriet Tubman ou encore Isadora Duncan. Et non, la savonnerie artisanale n'est pas morte. Et mieux, elle peut devenir un objet précieux et vecteur de culture. Vous verrez. Alors à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Sonia, bonjour Alexandra.
Bonjour.
Bonjour Chantal.
Est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire de Vilaine fille et mauvais garçon?
Oui. Alors, c'est une histoire commune entre deux associés, Alexandra et moi-même, Sonia. La volonté que nous avons eue toutes les deux à l'issue d'un travail commun dans une société dans laquelle on a travaillé, Alexandra 5 ans, moi une dizaine d'années, on s'est trouvés toutes les deux à un moment donné de notre vie, à la sortie de cette aventure, en voulant vraiment créer quelque chose de très personnel. Et nous avons eu cette idée de construire une entreprise ensemble. Et Vilaine fille, mauvais garçon, c'est le démarrage d'une aventure sur raconter des profils. Pourquoi des profils, pourquoi des personnalités? C'est autour de discussions que nous avons eues, Alexandra et moi, sur nos découvertes personnelles de lecture, sur des personnalités qui ont disparu et qui ont été pour certaines tout à fait oubliées. Et on a trouvé intéressant de pouvoir les valoriser ou au moins les faire redécouvrir à un large public au travers de nos produits.
On peut peut-être préciser que ce sont les premiers produits que nous proposons sont en fait des savons que nous utilisons comme support en fait et comme un peu comme prétexte à raconter une histoire, donc l'histoire d'une personnalité qui est sculptée sur le savon en fait. Donc il faut imaginer comme un support, c'est le savon sur lequel est sculpté un camé, donc un profil à la manière de ces anciens, de ces bijoux anciens, des bijoux de grand-mère. Mais l'idée, c'est en fait à la fois de réunir l'esthétique et avec du sens et du fond. Donc l'idée, c'est que nos produits se veulent beaux. Bon, parce qu'on est super exigeante sur ce qui entre dans la fabrication de nos produits et sur le processus de fabrication de nos produits. Et puis troisièmement, cerise sur le gâteau, on raconte une histoire, donc on espère donner du sens aussi à un objet qui est tout à fait utile, fonctionnel, mais qui en même temps devient une espèce de multi-support, multi-facette. Et voilà. Et donc la première collection est composée de six savons différents qui racontent six femmes, puisqu'on a commencé avec les filles, les vilaines filles, puisqu'on est des filles et que je pense que leurs histoires nous ont bien sûr épatées, émues, touchées. Et voilà ce qui est derrière Vilaine fille, mauvais garçon.
Alors, vous avez misé quand même sur deux choses dont on n'entend presque plus parler, hein, c'est-à-dire le temps, puisque vous avez quand même utilisé un process qui est la saponification, qui est un process artisanal, à froid, et qui est artisanal. Ça prend 4 à 6 semaines quand même, hein, je crois, de fabrication.
Absolument.
C'est énorme. Et sur le fait main.
Donc, c'est quand même un pari un peu dingue, à l'heure où les gens veulent tout tout de suite, pas cher, quel que soit le mode de fabrication.
Oui, c'est vrai que malheureusement, bon, après, il y a un mouvement, on sent qu'il y a un mouvement qui s'opère. Hein. Les gens s'intéressent quand même de plus en plus à la manière dont les vêtements qu'ils achètent sont fabriqués, à la manière dont de, aussi ce qu'ils vont manger au restaurant est fabriqué et d'où c'est approvisionné. Mais c'est vrai que le temps, je trouve que le temps est vraiment au cœur de notre démarche. Vous l'avez soulevé, Chantal, quand on a préparé l'émission, vous avez dit que l'idée du travail du temps était très présent. Et c'est vrai, on fait un travail sur le temps en essayant de le rallonger finalement ce temps. On emploie un procédé super ancien. C'est le premier procédé de saponification. On emploie des techniques extrêmement artisanales, donc a priori très anciennes. Je veux dire, il y a très peu d'outillage. Hein. On utilise des ingrédients souvent qui ont été oubliés parce qu'ils étaient soit trop chers, soit ils ne saponifiaient pas assez vite. Et du coup, comme le temps, c'est de l'argent, on les a totalement oubliés. Et puis, l'idée d'aller chercher ces personnages, ces femmes exceptionnelles, épatantes, tout ce qu'on veut dans le passé, et aussi un formidable hommage finalement au temps, à l'histoire. Donc c'est vrai que le temps est... Et puis je trouve que, enfin on le trouve toutes les deux, c'est que à notre époque où le temps s'est complètement accéléré, raccourci, où tout est tout de suite maintenant, où au moindre SMS, on est supposé répondre dans la minute, si on ne répond pas, on vous appelle, on dit qu'est-ce qui se passe. Je trouve que cette idée d'essayer de rallonger le temps et de redonner de la valeur en fait au temps, c'est du luxe. Enfin, c'est le luxe et c'est pour ça aussi. Ça nous amène à la question du prix de nos savons qui ont un coût certain, mais qui est justifié, expliqué par ce processus. Il faut savoir que dans l'industrie, un savon, c'est 95% des savons que vous achetez, qu'on a acheté dans le commerce. Ça se fabrique en quelques heures, ça s'est chauffé très 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 fort, et puis ça refroidit très très vite, ça durcit, et puis après, ça, au bout de quelques jours, c'est mis en vente, et voilà, ça explique. Donc cette idée du temps et du temps passé à poser le camé sur le savon, tout est fait manuellement, est très présent dans notre démarche. Voilà.
Ce qu'il faut savoir. C'est que ces savons donc ont un camé. Hein. Alors pourquoi avoir choisi ce dessin un petit peu suranné qu'on retrouve beaucoup sur les bijoux de grand-mère
Voilà, alors ça c'est effectivement, il y a plusieurs choses au travers du camé. La première, c'était de trouver la sensualité qu'on puisse avoir dans cet objet et de quelle façon on peut rendre hommage avec un objet éphémère, puisqu'on a choisi de travailler sur des objets éphémères. Et le camé, c'est une façon de représenter évidemment une personne disparue, puisqu'on a les écrits, et puisque dans nos coffrets, on retrouve un écrit texte qui raconte. Et on a besoin de voir, sentir, toucher la personne. Bon, c'est très sensuel comme idée, mais le camé était une belle réponse. Et au travers du camé, il y a aussi toujours dans le temps de prendre vraiment le temps de construire. Et ces camés sont des sculptures. Et ces sculptures, faut les faire.
Ouais.
Donc là... Il y a énormément de temps, d'observation.
Parce que c'est fait à la main, on est d'accord.
C'est fait à la main et c'est passionnant. Parce qu'en fait, travailler à partir de photos, des fois floues, anciennes, des fois il n'y a pas de profil même, pour certaines, comme Ariette Mann. Il n'y a pas de profil de cette femme qu'on a voulu représenter dans notre première collection. Et le camé est aussi... une façon généreuse de dire, on va essayer de transmettre qui était cette personne, comment on l'aperçoit, et vous allez pouvoir vous l'approprier, la toucher, la sentir, en lui trouvant... Alors, il y a l'idée de la fragrance, bien entendu, dans le savon, qui s'allie avec le profil. Et le camé, c'est aussi, comme vous le disiez, c'est vrai que c'est l'image du suranné, et bon, c'est intéressant d'essayer de sortir de ça, d'essayer de faire un objet avec un camé... qui soit pas passéiste. Je pense qu'on a réussi à ce challenge. de faire cet objet hommage qui soit pas, qui fasse pas poudrer grand-mère, quoi.
Bah, rien que les figures que vous avez choisi de mettre en avant, de toute façon, déjà dépoussièrent totalement le concept, hein, puisque ce sont pas des princesses, ce sont pas des impératrices,
non.
Ce sont des personnalités presque contemporaines, en tout cas du 20e, du début, fin du 19e, début du 20e siècle. Et voilà, quoi, c'est plutôt des
Et puis, dans leur façon de vivre, voilà. Elles étaient ultra modernes.
Modernes,
chacune à sa manière. Et puis, dans l'histoire du camé, il y a aussi, effectivement, le camé, c'est connu pour les bijoux. Et il y avait aussi la volonté de créer quelque chose, un produit qui soit inconsommable, hein, éphémère, mais qui soit quand même précieux. Parce qu'il fallait, pour ces vilaines filles, il leur fallait quand même un sacré écrin. Et que, voilà, donc on essaye de jouer, voilà, c'est sur un double niveau, triple niveau même. voilà, donc c'était là l'idée du camé.
Alors justement, comment vous faites le choix de ces personnalités? Parce qu'il y en a effectivement qui sont pas ou peu connues. Il y en a d'autres qui font pas forcément l'unanimité.
Alors déjà, il y a la période, la première... la période préparatoire qui est celle, c'est assez rigolo. Chacune de notre côté, on lit, on écoute. On parlait tout à l'heure des podcasts et à quel point ça nourrit, je trouve, l'imaginaire et puis après aussi les envies, etc. On écoute, on lit, on farfouille, on va dans des musées ou je sais pas, où on va à l'étranger, on tombe sur un visage qui nous fait penser à quelqu'un d'autre, par exemple. Et puis ensuite, on en discute. Chacune un peu fait le pitch à l'autre pour essayer de la convaincre. Si, tu dois la choisir. Moi, je la trouve géniale. Alors l'autre dit, ouais, enfin, tu trouves qu'elle est si géniale que... Ah ouais, celle-là, je la veux à fond. Donc on est voilà, entre nous, on se convainc. Et puis on a essayé de, dans cette première collection, d'avoir un éventail. Il y a une très très jeune fille, même je dirais une petite fille. Il y a deux Françaises, il y a une Américaine plus connue, Isadora Duncan, très fantasque et qui était par ailleurs amoureuse de la France. Donc on trouvait qu'il y avait aussi ce lien à la France qui était intéressant. Harriet Tubman, peut-être qu'on vous racontera un peu certains profils après, mais Harriet Tubman qui est totalement méconnue en France, qui l'est un peu plus aux États-Unis. Commence à être, enfin les petites filles sont souvent à l'école,
on
leur parle quand même d'Harriet Tubman, quand même une personne qui est un sacré modèle à plusieurs titres. Et donc voilà.
Et vous pourriez justement nous raconter l'histoire d'une ou deux de vos personnalités?
Oh oui. On a choisi par exemple la première. J'avais lu le livre d'Isadora Duncan, parce qu'elle a écrit son histoire autobiographique qui s'appelle Ma vie. Et en fait, je suis tombée sous le charme de cette femme, parce que je ne connaissais d'elle que en tant que danseuse, assez débridée, dansant dans des voilages, des photos, quelques photos kitsch quelque part, hein, de cette femme. Qui en fait était une femme absolument incroyable, puisqu'elle est partie de rien. Elle a appris dès son plus jeune âge à lire en famille, avec sa famille. Vraiment, sa mère lui a inculqué le goût de la lecture et elle a souhaité très rapidement s'instruire, mais par elle-même. Et c'était une famille comme ça. En fait, c'est pas que Isadora, hein, c'est toute la famille, cette famille américaine. Qui a pris des chemins presque à côté, puisqu'elle a quitté l'école très très rapidement. Et elle a ouvert une école de danse, elle était encore petite fille. Et comme elle devait être assez douée, elle a réussi à convaincre le voisinage, elle a trouvé des élèves à qui elle a donné ses cours de danse, qui étaient complètement inventés. Hein.
Ouais.
Et puis tout en continuant à s'instruire avec un fort désir de voyage, puisque Isadora était helléniste et passionnée par Paris. Donc le premier voyage a été vers cette grande ville parisienne, très pauvre. Donc on dort presque sur les bancs en famille. et on passe notre vie au Louvre, ce qui est formidable parce que voilà, c'est toute cette facette de cette femme qui autodidacte à une époque où ça semble assez inouï,
hein, bien sûr,
très moderne, et qui a choisi comme ça de continuer sa vie d'artiste, mener un front contre le conformisme et de créer ses propres écoles, passant d'une vie assez riche parce qu'elle a eu des cachets importants à une misère presque dramatique pour elle. Et elle a eu des drames, évidemment, ses souffrances. Et c'est ça aussi le choix. Isadora, comme les autres, c'est pas forcément des gens, c'est pas l'hommage sans subtilité, c'est-à-dire ah, elle a, cette personne a accompli ça, c'est formidable. C'est aussi des gens qui ont souffert. Ce sont des gens qui sont comme nous, qui ont des versants peut-être aussi
plus troubles.
Et c'est au travers de cet équilibre qu'on trouve une harmonie, en fait, et où on se retrouve, nous, hein, une image qui sort évidemment toujours de cette image publicitaire de la femme parfaite, l'homme parfait. Voilà. Et Isadora, donc,
fait partie
de ces femmes épatantes.
Et Alexandra, deux mots sur Harriet Tubman.
Je pense qu'elle est revenue, entre autres, c'est affreux à dire, mais au goût du jour, ouais, aux États-Unis, parce que sous la présidence de Barack Obama, il a été décidé et voté qu'elle serait sur le billet de $20 en 2020.
Tout à fait.
Je crois que cette mesure, d'après ce que j'ai compris, ne peut pas être remise en cause par Donald Trump. Donc, espérons-le. Donc, je crois que son histoire, d'après ce que j'ai compris, son histoire a quand même traversé les livres d'histoire américains. Mais là, il y a vraiment un renouveau grâce à Barack Obama. Et donc, il y a ce livre qui est sorti. Il y a ce film qui apparemment est en préparation. Et en fait, il s'agit d'une petite fille qui est née sous la période de l'esclavage aux États-Unis.
Dans une plantation.
Sa mère était déjà esclave, donc voilà, elle est née là-bas. Elle a vu sa mère, ses parents souffrir. Elle a été elle-même très maltraitée enfant, avec des séquelles importantes, même physiques, hein, et mentales. C'est-à-dire qu'elle a été très durement frappée à la tête plusieurs fois. Donc, on pense que probablement ce qui a pu passer parfois dans son témoignage parfois est un petit peu. On trouve parfois des allusions un petit peu spirituelles, un peu étranges, des hallucinations, etc. On pense que finalement c'était tout simplement le symptôme de. Enfin, les stigmates de ce qu'elle avait vécu. Et donc, elle a décidé, à l'âge adulte, de fuir la plantation, toute seule au départ. Et ensuite, elle s'est dit, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Donc, elle est revenue en arrière sur les lieux de son esclavage. Et elle a, en fait, créé une espèce de réseau qui s'appelait le chemin de fer souterrain. Et qui était un réseau de. Pour faire s'échapper des esclaves. Donc, elle les faisait sortir, elle les emmenait en sécurité, puis elle revenait en chair recherchée. Et voilà. Et puis, elle a pu essaimer et donc embarquer d'autres personnes avec elle sur ce projet. Et puis, après, une fois qu'elle a eu la sensation d'avoir fait ce qu'elle avait à faire sur la question de l'esclavage, elle s'est ensuite beaucoup intéressée à la cause des femmes, tout simplement, et puis des personnes âgées. Enfin, elle a donné, je crois que le peu d'argent qu'elle avait, elle avait créé une espèce d'hospice pour les personnes âgées qui vivaient plus ou moins dans la misère. Donc voilà, donc un parcours totalement tourné vers l'autre. Longtemps, enfin moi je ne sais, moi je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce qu'on tombe sur ça. Et sur son parcours, je ne sais pas au gré de quelle lecture, je ne me souviens plus. Et puis voilà, une femme forte, généreuse. Voilà.
Et voilà. Et en fait, c'est bien dans l'esprit de tout ce qu'on entend en ce moment autour du féminisme, de ce revival, du mouvement MeToo, etc. Parce que toutes ces femmes, j'ai l'impression qu'elles ont quand même quelque part un côté très, entre guillemets, affranchi et ouais, très féministe. Hein.
Et c'est vrai que c'est le choix de ne pas dresser de portrait de gens lisses, femmes ou hommes, en fait, finalement. On se rejoint, Alexandra et moi, sur l'idée que c'est plus de l'humanisme que du féminisme ou du masculinisme. Je ne sais pas si le terme existe. C'est vrai qu'Harriet Tubman, c'était un choix aussi politique. Je crois que c'est ça qui nous a... Sachant qu'elle allait être sur le billet de 20 dollars et qu'il y a ce Donald Trump épouvantable...
À la manœuvre,
on se dit, bon, normalement, elle va y être, mais c'est un point d'honneur de parler d'elle. Cette femme est formidable, elle s'est donnée jusqu'au bout.
Où sont les mauvais garçons, là ?
Ils arrivent. Ouais, ouais, ils arrivent. Ils sont en gestation. Non, on les a plus ou moins identifiés.
Ouais.
Par souci de symétrie, parce que quand même, on est des filles sérieuses. On va en faire six aussi pour commencer. Et puis, ce sont des hommes, des aventuriers, des artistes, plus ou moins connus encore une fois. Mais ils ont tous une sensibilité. Ils ont tous. Alors, certains ont fait des choses très courageuses. D'autres ont fait des choses plus anecdotiques, mais ils sont quand même des symboles parce qu'ils racontent leur époque. Ouais. Ils sont le miroir en fait d'une époque. Je crois que c'est vraiment ça. Ils sont pas tous juste pour revenir sur la question du féminisme ou pas. En fait, on veut pas non plus se placer nous comme des on n'est pas non plus des activistes. On est plus on est ému. On est ému ou pas par des parcours et on a envie de les mettre en avant et parce qu'ils représentent l'être humain et avec ses parts d'ombre, ses forces, mais tous ont accompli quelque chose. Ils peuvent tous servir à un moment donné à une personne donnée. Ils peuvent servir un petit peu d'inspiration.
Ouais. Et alors, donc, on comprend effectivement pourquoi ce nom étrange de vilaine fille, mauvais garçon. On n'est pas du tout dans quelque chose de lisse. Ce sont toutes des personnalités très complexes.
Absolument. En fait, on se rend compte, c'est pour montrer que pour accomplir des choses... Il faut accepter d'être incompris, jugé, moqué. Il y aura toujours un moment dans notre vie où on nous regardera avec un sourire en coin ou avec des yeux écarquillés en disant « mais t'es complètement taré de faire ça » ou « regarde là, elle pense qu'elle va parvenir à ça alors qu'elle est nulle ». Et non, en fait, l'idée, c'est qu'on a tous été la vilaine fille ou mauvais garçon de quelqu'un, que tous ceux qu'on met en avant ont forcément été taxés à un moment de vilaine fille ou surtout c'est vrai que les personnages qu'on a choisis ont tous une vraie part d'ombre et puis il y avait l'idée c'est de sortir des espèces de canons que ce soit des canons historiques, sortir des jugements de morale aussi et puis on avait un petit côté aussi, on avait envie de montrer qu'on est quand même on se prend pas non plus trop au sérieux, quoi. Ce sont des hommages, certes, mais aussi, ce sont des objets précieux, raffinés, mais on a un petit peu de recul aussi sur ce qu'on fait. Ouais. Et puis, c'est surtout, tu vas le raconter, toi.
Ah oui, c'est évidemment... Vilaine fille, mauvais garçon, c'est tout à fait qualitatif. Voilà, c'est en écoutant, évidemment, la chanson de Serge Gainsbourg.
Oui.
On s'est dit, mais c'est exactement ça. C'est nous. C'est ce qu'on souhaite faire. Des gens normaux, quoi, en fait.
Tout à fait.
Voilà.
Donc, il y aura six garçons, six mauvais garçons.
Six mauvais garçons. Et puis, d'ici le printemps. Et puis, une nouvelle série de filles.
Ah, génial.
Et éventuellement, peut-être même des couples. On est en train de se dire des couples. Filles-filles, garçon-garçon, filles-garçon. Enfin, tout ce qu'on veut, quoi.
N'en dis pas trop, quand même.
Faut pas tout dévoiler. Bien, merci beaucoup.
Merci, Chantal.
Merci beaucoup, Chantal.
Merci de nous avoir écoutés.
Si ça vous a plu, abonnez-vous sur iTunes et profitez-en pour nous laisser un avis et surtout une note. Perso, j'adore les 5 étoiles. N'oubliez pas également de suivre Beauty Toaster sur sa page Facebook et sur Instagram. Et en attendant, rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure.